France Info. 20h, 21h, France Info, les informés. Bérangère Bonte.
Bonsoir à tous, au menu des informés, jusqu'à 21h en direct à la radio et à la télévision sur le canal 27. Gabriel Attal a-t-il eu raison de s'attaquer à l'indemnisation des chômeurs? La levée de bouclier est syndicale, mais aussi politique, suite aux annonces d'hier, avec des questions sur le calendrier, sur les mesures elles-mêmes et sur l'envie d'écarter les partenaires sociaux, entre autres. L'exécutif qui choisit en tout cas la fermeté dans l'affaire du proviseur menacé de mort. Une plainte a été déposé contre la famille à l'origine des menaces. Est-ce suffisant pour rassurer un corps enseignant qui se sent bien seul? La laïcité reste en tout cas un sujet sensible à l'école. On en parle avec notre expert Jean-Pierre Sakoun, président de l'association Unité Laïque. Et puis, que se passe-t-il avec Raphaël Glucksmann, troisième des sondages pour les européennes? Il grogne, grappille des voix chez LFI, mais aussi du côté des macronistes. Est-il en train de réveiller la gauche du centre et le traditionnel match avec la droite? On en parle avec nos informés qui sont ce soir Nathalie Moret, journaliste politique au bureau parisien du groupe Ebra, Charles Sapin, journaliste politique au Point et auteur d'un livre qui vient de sortir, Les moissons de la colère, plongé dans l'Europe nationaliste, c'est aux éditions du Cerf, et Bruno Cotrès, chercheur CNRS au CEVIPOF, le centre de recherche de la vie politique et prof à Sciences Po. Bonsoir et bienvenue à tous. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que Gabriel Attal a à peu près réussi à fâcher tout le monde avec sa réforme sur l'assurance chômage, même dans la majorité, on en parlera sans doute. Les syndicats en tout cas sont vent debout, ils y voient une stigmatisation à nouveau des chômeurs. On va écouter François Omeril, président de la CFE-CGC, le syndicat des cadres.
Il prétend que quand on tape plus sur la tête des chômeurs, ils retrouvent plus facilement un emploi. Or c'est faux, il est démontré que c'est faux, il y a des études qui le prouvent. C'est vraiment une considération populiste, c'est le gouvernement du coin du bar, c'est absolument scandaleux. Donc que veut Gabriel Attal? Il veut par exemple qu'un technicien supérieur de 52 ans au chômage, il accepte n'importe quel emploi, une plonge dans un restaurant, un gardiennage d'un parking. C'est ça qu'il veut en fait. Il veut afficher des chiffres qui sont sans lien avec ce qu'est la réalité vécue par quelqu'un confronté à la dure réalité d'être au chômage. C'est ça qu'il fait. Mais c'est scandaleux, c'est insupportable en fait.
Alors, la réponse, et puis je vais vous entendre aussi sur ces deux témoignages, la réponse de la ministre du Travail, Catherine Vautrin, qui était l'invitée de France Info ce matin, et qui présente la philosophie, le pourquoi de cette réforme.
Le pays crève du chômage de masse. Notre difficulté, c'est précisément d'accompagner celles et ceux qui sont au chômage, vers l'emploi. Et c'est vraiment la nécessité qui a été annoncée hier par le Premier ministre, qui est de dire, parce que on a d'ailleurs une étude de la DARES qui sera rendue en juin et qui donne les premiers éléments, plus vous restez longtemps au chômage, moins vous avez de chances de retrouver un boulot. Donc le sujet, c'est vraiment chômage, formation, retour vers l'emploi dans les délais les plus courts possibles.
Messieurs, madame, pourquoi cette réforme? Pourquoi Gabriel Attal s'est-il embarqué dans cette galère, Charles Sapin?
Pour répondre à une crise montante, en fait, si vous voulez, il y a un style Gabriel Attal qu'on commence à connaître un petit peu. On l'a vu quand il était ministre de l'Éducation, c'est-à-dire que quand vous avez un bad buzz, comme on dit dans notre métier, c'est-à-dire des informations un peu embêtantes pour le gouvernement, il essaye de faire de l'aïkido et de transformer ça en force. Là, qu'est-ce qui occupe l'actualité? Un déficit qui dérape, une dette abyssale, avec un président de la République qui est responsable de 1000 milliards de dettes supplémentaires, c'est-à-dire au prorata... un bilan plus dur encore que celui de François Hollande, et qui vient même finalement nier ce qui étaient les promesses originelles hein, du président Macron en 2017, qui était en gros retrouver une dynamique économique, réformer l'État. Donc Gabriel Attal, face à ça, essaye de faire de l'aïkido et dit voilà, je fais des grandes annonces sur le travail. Mais il ne faut pas prendre des vessies pour des lanternes. Le but de cette réforme de l'assurance chômage, c'est pas remettre les gens au travail. Celui qui a 52 ans, qui s'est fait virer, c'est pas en réduisant en fait les indemnisations qu'il va retrouver du travail. Non, c'est faire des économies.
Ni en les écourtant.
C'est faire des économies. Alors pour ça, comme l'a dit le Premier ministre, il y a plusieurs voies possibles. Vous avez la réduction.
Mais... Ouais. Non, mais alors économie, là aussi, la question est compliquée parce que on répète à l'envi, et tous les économistes le disent, que l'UNEDIC est excédentaire. Donc faire des économies, quand on regarde déjà cette caisse d'assurance chômage, Elle fonctionne, elle est même excédentaire, Bruno Gautreis.
Ah oui, effectivement. Au fond, c'est surtout l'État central, les administrations centrales qui sont responsables de cette dette et du déficit de cette année. C'est 154 milliards d'euros de déficit. Quand on regarde et qu'on décompose administration centrale, État central, on va dire collectivité locale, opérateur public du type CNRS par exemple, on voit que c'est l'État central principalement, c'est pas les collectivités locales, c'est pas les administrations sociales. Donc effectivement, il s'agit pour le Premier ministre à la fois de détourner effectivement le regard en le faisant porter sur les chômeurs. Et puis, vous savez, dans la communication de Gabriel Attal, il y a effectivement toujours aussi ce thème de l'autorité qui revient, qui est omniprésent. Vous savez, dans les enquêtes qu'on réalise à Sciences Po, régulièrement, on demande aux Françaises et aux Français s'ils considèrent, s'ils seraient d'accord avec l'idée que les chômeurs, s'ils le voulaient vraiment, pourraient retrouver du travail. C'est vrai qu'il y a une majorité de l'opinion qui dit ça.
Mais quand si on regarde, voulait vraiment, vous voulez dire
voilà,
ça.
Mais quand on regarde de près, on voit que c'est pas vraiment quelque chose qui mesure l'idéologie gauche-droite. C'est beaucoup plus quelque chose qui capte la demande d'autorité. C'est beaucoup plus corrélé à l'idée
c'est-à-dire
de l'autorité.
Il y a une majorité de Français qui considèrent que s'ils voulaient vraiment,
voilà,
s'ils traversaient la route, comme
faudrait un petit peu booster les gens pour les aider à traverser la rue pour trouver un boulot. Et c'est vrai que dans la communication du Premier ministre, ça fait coup double. À la fois l'idée de l'autorité, le Premier ministre qui dit on va se retrousser les manches, on va un peu booster les gens pour qu'ils retrouvent du travail. Et puis aussi, il y a sa communication sur l'efficacité, trouver des solutions rapides, puisque lui veut une mise en œuvre de ces nouvelles mesures extrêmement rapide, extrêmement rapide. Il attend des éléments dès le mois d'avril pour une mise en œuvre à l'automne. Et on voit que là, c'est un peu orthogonal avec le dialogue social.
Mais encore une fois, la question, c'est des solutions à quoi alors, pour le retour au plein emploi, qui est le grand objectif du quinquennat Macron, Nathalie Moret. Mais là aussi, beaucoup d'études, beaucoup d'économistes le disent, et on le disait à l'instant, c'est pas en
raccourcissant. Je pense qu'avec Gabriel Attal, on n'est pas sur une question sociale ou économique. Gabriel Attal, hier soir, au journal télévisé, il a fait de la politique. Rappelez-vous, lors de son discours de politique générale, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était fin janvier, il avait prononcé le mot « travail » une cinquantaine de fois
46,
en une grosse heure. Non, mais ça veut dire que c'est ça qu'il essaye d'imprimer. Il essaye d'imprimer le fait, en disant « moi j'assume », il parle à la première personne, et le verbe « assumer » est un verbe qu'il emploie très souvent. Il essaye, il tente d'assumer dans l'opinion publique à 70 jours des élections européennes, qu'il est pour une France qui travaille, pour une France des classes moyennes pour lesquelles il a plusieurs fois demandé un plan Marshall. Et c'est à cette France-là qu'il s'adresse en faisant référence à ce que vient de dire Bruno Gautreis, c'est-à-dire que dans l'inconscient collectif d'un certain nombre de Français, s'ils le cherchaient vraiment, les personnes qui sont sans activité pourraient en retrouver une. C'est la politique qu'il fait. Parce que c'est pas tant les nombres d'économies qui va faire qui sont en cause. C'est plutôt une question d'affichage, y compris pour les agences de notation.
20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
En compagnie ce soir de Bruno Gautreis du Cevipof, Charles Sapin du Point, Nathalie Moret du groupe Ebra, je vous le disais, service après-vente, disons-le très politique, par le Premier ministre qui était en déplacement à l'usine L'Oréal de Rambouillet dans les Yvelines ce matin, et vous allez l'entendre, il renvoie dos à dos LFI et RNNet dans cette histoire.
J'ai bien vu depuis hier soir, c'est pas une surprise, il y a un axe Mélenchon-Le Pen contre la réforme que j'ai annoncée. Mais ce n'est pas une surprise, parce que ça a toujours été ce logiciel-là. Ce n'est pas une surprise, on ne découvre pas que M. Mélenchon et Mme Le Pen, sur les questions de travail et de social, c'est un seul et même parti. Extrême droite, extrême gauche, même combat contre le travail, une forme de parti du tout allocation. Nous, ce n'est pas ça notre logiciel et ce n'est pas ça notre logique.
Il a raison, LFI et RN, même combat sur cette question.
Non, il a pas raison parce que on est c'est beaucoup trop caricatural et il répond le but de Gabriel Attal, c'est de cliver l'opinion. Donc en faisant du Rassemblement national et de la France insoumise, en mettant un signe égal et en disant ce sont les partis des allocations face à nous qui représentons la France du travail, il cherche à cliver l'opinion. C'est exactement ça qu'il cherche et effectivement effectivement, la réalité, elle est jamais noire ou blanc, c'est plutôt gris foncé et gris clair. Mais la nuance, c'est beaucoup plus difficile à faire passer. Donc effectivement, non, vraiment, il n'a pas raison, parce que la vérité, elle est beaucoup plus nuancée, évidemment.
Est-ce qu'il y a un fond de vérité, peut-être, Bruno Cotterêss?
Je recommanderais au Premier ministre de se pencher à nouveau sur la vague 15 du baromètre de la confiance politique du CEVIPOF, qui montre que les Françaises et les Français...
Je suis sûr qu'il entend.
Voilà, qui montre que les Françaises et les Français, au fond, le rapport au travail, il est très important. C'est une valeur absolument cardinale dans la société française. Les gens sont heureux et fiers de travailler. Par contre, ils trouvent que l'ascenseur n'est pas renvoyé en termes de promotion professionnelle, en termes de reconnaissance au travail, en termes de promotion du mérite professionnel, en termes d'augmentation de salaire. Et au fond, c'est surtout ça le problème en France. C'est pas vraiment la question de travailler. Tout le monde est d'accord sur le fait que le travail est à la fois un vecteur d'intégration sociale, d'épanouissement personnel, de réalisation de soi-même, bien évidemment, mais l'opinion trouve que l'ascenseur n'est pas renvoyé, la balle n'est pas renvoyée en termes de promotion tout au long de sa vie professionnelle.
Mais en tout cas, ça lui donne raison sur le choix du sujet. Et Dieu sait que c'est clair, son sujet.
Voilà, c'est clair qu'il y a un, voilà, y a un sujet dans l'opinion, mais qui n'est pas nécessairement sous l'angle. L'angle sur lequel, pour le moment, peut-être qu'il va venir sur l'autre angle, mais sur cet angle-là, l'angle qu'il cherche à capter, c'est effectivement un électorat qui trouve qu'il y a des gens qui sont des paresseux, qui ne travaillent pas, qu'il faut donc leur renier les ailes sur la durée d'indemnisation, le montant de l'indemnisation, ou la durée qu'il faut avoir travaillé pour être indemnisé. Et pour le moment, c'est surtout ça, effectivement, dans une logique de très fort clivage, dont l'objectif politique en vue du 9 juin est tout à fait évident.
Mmh. Alors, il y a un choix de calendrier qui pose aussi des questions. D'abord parce qu'il y avait des négociations qui sont même pas... Le texte précédent n'est même pas totalement abouti, totalement validé. Il y a des européennes, il y a des Jeux olympiques. Si tout ça est censé aboutir juste dans cette période-là, il prend un énorme risque. Ou alors, il fait le pari qu'il n'y aura pas de mobilisation, qu'il n'y aura pas de grogne sociale, Charles Sapin ?
C'est aussi un timing. En effet, c'est un timing qui n'est jamais un timing où, en pleine campagne électorale, ce n'est jamais anodin en politique. Et c'est vrai que c'est une façon aussi, mais comme vous l'avez très bien dit, c'est d'implanter un sujet dans le débat public pour occuper le débat public, pour pas qu'on parle d'autre chose. Il y avait une petite musique.
Énormes manifs juste au moment des JO. Comment
les manifs n'auront pas lieu au moment des négociations.
Juste avant, on va dire.
Les manifs n'auront pas lieu au moment des négociations. Je pense que là, il lance un sujet dans l'atmosphère qui va occuper les médias, qui va occuper aussi l'échiquier politique. Ça vient opportunément juste après. J'y reviens, je suis désolé, sur cette séquence quand même incroyable sur le dérapage, notamment des finances publiques, mais aussi des prévisions du gouvernement. Normalement, quand un gouvernement se trompe sur ses prévisions économiques, on est à 0,3. Là, on a dépassé les 0,6. Et il y a une petite musique en temps électoral qui compte beaucoup. C'est que vous avez les responsables, les Républicains, par exemple, qui disaient, bon, bah, très bien, deux quinquennats du Mozart de la finance, ça s'est terminé en requiem pour les finances publiques. Ça peut parler à une forme d'électorat, et c'est justement ce même électorat, cette France du travail, cette France qui se lève tôt, comme disait Nicolas Sarkozy en 2007, qu'essaye de toucher Gabriel Attal dans une forme de contre-feu.
Sauf si les oppositions arrivent à faire entendre et à faire prospérer ce procès en insincérité qu'ils essaient d'instruire, Bruno Cotterêss.
Oui, parce qu'effectivement,
considérant que tout n'a pas été mis sur la table,
puis voilà,
que
c'est l'aspect paradoxal d'une communication, de battre le rappel de manière urgente, en disant il faut remettre les gens au travail, etc., mais d'une équipe qui est au pouvoir depuis 7 ans. Et donc, il y a là quelque chose qui est toujours un tout petit peu pas paradoxal. Effectivement, les oppositions ont là, une fenêtre pour tirer, qui est effectivement presque idéale pour eux, en disant, bah, effectivement, le Mozart de la finance, ça crée le niveau de dette publique cumulée le plus important, disent certains, de toute l'histoire du pays, ou en tout cas de son histoire récente, avec un dérapage en 2023 qui fait que la France fait un peu mauvais élève de la zone euro en particulier. Et c'est un peu paradoxal à ce moment-là d'en appeler à une urgence. Quand on est aux responsabilités depuis plusieurs années.
Alors, clairement, dans la majorité non plus, ça les réjouit pas. ma question, c'est est-ce qu'il prend un risque quand même à un moment vis-à-vis de sa majorité qui était pas réjouie de ces annonces d'aujourd'hui, qui est inquiète sur ce déficit qui a dérapé. Vous aviez raison, Charles Sapin. Ils craignent clairement une motion de censure qui est possible aujourd'hui.
Alors moi, je pense que le risque il est pas là. Déjà, ce qui est relève de l'assurance chômage, ça va pas passer par le Parlement. Première chose. Le risque, peut-être, c'est parce que, et on l'a vu lors des questions au gouvernement ce mardi à l'Assemblée nationale, moi j'y étais et j'ai vu Charles de Courson, qui est un centriste un peu conservateur du groupe Liot, acclamer debout par la France insoumise. On peut pas les suspecter d'être politiquement alignés, tout simplement parce que Charles de Courson, qui est vraiment un spécialiste des finances, avait demandé un budget rectificatif. Tout ça est très technique, mais avoir un budget rectificatif pour le gouvernement, ça veut dire signer quelque part qu'il avait présenté un budget insincère. Donc toute la bataille du Parlement, ça va être est-ce qu'on va arriver à avoir un budget rectificatif ou pas ? Est-ce que on va avoir cette bataille parlementaire ou pas ? C'est vrai que c'est politiquement intéressant, mais je pense que ça n'arrive pas au niveau des Français. C'est-à-dire que cette bataille entre budget rectificatif, etc., c'est quelque chose.
Mais justement, il faut expliquer que.
Et c'est ça qui pourrait peut-être amener peut-être à un vote, une coalition des oppositions contre le gouvernement. Moi, à ce stade, je n'y crois pas trop, mais c'est effectivement un risque qui plane.
C'est une des craintes au sein de la majorité. C'est les différentes échos qui remontent et qui pourraient survenir soit en cas de 49.3 sur ce budget rectificatif, donc qui surviendrait parce qu'au cas où il y aurait de nouvelles coupes budgétaires qui nécessiteraient de revenir devant l'Assemblée, ou soit sur d'autres textes d'ailleurs.
Oui, on peut comprendre.
Comment on peut évaluer ce risque-là aujourd'hui ? Il est réel pour vous, Bruno Cotterêts ?
Effectivement, tant qu'on ne sait pas s'il y a un rectificatif, voilà.
Mais sur d'autres textes, voilà, est-ce que les oppositions textes, à un moment peuvent
pour le moment, c'est moins évident que ça ne l'a été, par exemple, sur la réforme des retraites, où Elisabeth Borne avait sauvé son gouvernement à 9 voix, hein, donc c'était passé pas loin. Là, pour le moment, on a d'abord une séquence qui est une séquence électorale qui arrive. Donc, c'est un peu risqué pour tout le monde, d'une certaine manière, parce que si on perd un combat sur une motion de censure, c'est pas très porteur dans la perspective des élections européennes non plus. Voilà, donc, pour le moment, je pense pas qu'on soit encore dans ce scénario, mais c'est vrai que s'il y a un budget rectificatif, là, il y a une opportunité qui se présente pour toutes les oppositions. Et c'est vrai que les Républicains, pour le moment, ont tiré à boulet rouge sur cette question des déficits.